Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24, notre seconde qui ne saurait déroger à la tradition et qui vous rappellera ou qui vous apprendra aux nouveaux venus, aux novices là au fond de la salle que je devine, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans et ailleurs depuis presque 150 ans maintenant. Le croiriez-vous ? Je rappelle aussi, je ne le fais pas à chaque fois, par contre, que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce une petite merveille signée Henry Mancini pour un film de 1962 qui lui-même est aussi une petite merveille. En anglais, ça s'appelait Breakfast at Tiffany's, en français, si vous voulez le commander sur Fnac.com, ça s'appelait Diamant sur canapé. Audrey Hepburn, George Peppard, Black Edwards derrière la caméra, un petit bijou vintage comme on dit maintenant. Aujourd'hui, eh bien, notre émission de 24 notes secondes va être consacrée à un compositeur de musique né à Buenos Aires, en Argentine donc, mais plutôt américain, en l'espèce Lalo Schifrin. Mais auditeur bien-aimé, me direz-vous, mais qui est Lalo Schifrin ? Eh bien, Lalo Schifrin, chers amis, c'est ça. Non, mais forcément, vous l'avez reconnu, même si vous êtes tout jeune, et c'est bien évidemment le générique de la série Mission Impossible, une série télévisée apparue sur les écrans entre 1966 et 1973 pour ce qui concerne la diffusion américaine des 171 épisodes, excusez du peu, où l'on voyait Peter Graves, alias Jim Phelps, accepter des missions avec une cassette qui s'auto-détruisait votre mission si vous l'acceptez, etc., etc. Un grand classique repris d'abord dans une autre série 20 ans après qui s'appelait Oh, Mission Impossible 20 ans après. Et puis surtout, qui garde le mythe intact et qui garde la musique de Lalo Schifrin, vous l'avez compris, intact, et bien ce sont les à ma connaissance, 5 films mettant en vedette Tom Cruise dans le rôle de Jim Phelps, si l'on veut, plus vraiment. En tout cas, 5 films intitulés Mission Impossible, 1, 2, 3, etc. Tournés entre 1996 et 2015, si je me souviens bien, du dernier, qui ne sont pas tous, je dirais, de la même eau que la série télévisée et qui réutilisent le thème de l'allochiffrine dans des déclinaisons de plus en plus hasardeuses, pourrait-on dire. L'allochiffrine, donc, née quelque part à Buenos Aires en 1932 et qui a de qui tenir puisque c'est le fils d'un violoniste professionnel, Luis Schifrin, et que du coup, bon sang ne saurait mentir, il étudie très jeune le piano avec Enrique Barenboim, qui quant à lui est le père du pianiste, dit ma petite fiche, mais aussi plutôt chef d'orchestre Daniel Barenboim. Ensuite, dans les années 50, eh bien, il va à Paris, et oui, il va à Paris se former au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, à l'époque de Paris, où il étudie entre autres, et excusez du peu, diront les musicophiles, auprès d'Olivier Messiaen et de Charles Cochelin. C'est d'ailleurs à Paris qu'il va commencer sa carrière, d'abord comme pianiste de jazz, arrangeur, je vous passe quelques détails, mais je vous donne quand même quelques noms de personnes avec lesquelles il aura collaboré, Gatto Barbieri, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Stan Getz, Count Basie, Jimmy Smith, excusez du peu, en tout cas une très 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 brillante carrière d'arrangeur en fait dans un premier temps pour toutes les personnes citées. Il se trouve que ensuite, eh bien, c'est pas le même aux États-Unis, que la société pour laquelle il travaille appartient à la Metro-Goldwyn-Mayer et que tout ça le mène bien évidemment vers le cinéma. L'histoire retiendra que c'est en 1964 qu'il signe sa première partition pour un film français de René Clément, Les Félins. Ensuite, eh bien, on citera Le Kid de Cincinnati, un très grand Norman Jewison en 65 avec Steve McQueen, si je me souviens bien, et dans un genre très différent. Pour illustrer les tâtonnements des débuts de sa carrière, Tiens bon la rampe, Jerry de Gordon Douglas, tourné en 1966 avec Jerry Lewis. Vous auriez pu le deviner. On va écouter un extrait d'un film tourné en 1967 qui n'a pas grand-chose à voir avec Mission Impossible puisqu'il s'agit d'une adaptation à l'écran d'une novella, comme l'on dit, un genre peu prisé par les romanciers français mais qui l'est beaucoup par les romanciers anglo-saxons. Ni une nouvelle, ni un roman à mi-chemin, 120 pages, 130 pages, en espèce, une novella signée de rien moins que de D.H. Lawrence, l'un de mes favoris. Je vous le dis, David Herbert Lawrence, bien connu pour être l'auteur de L'amant de Lady Chatterley, mais un homme à la carrière brillante et météorique, puisque mort à 45 ans après avoir écrit une somme hallucinante de romans, nouvelles, etc., etc., qui donc écrivit 7 ou 8 ans, je crois, en 1922, dit ma petite fiche, Le Renard, c'est de cela qu'il s'agit, The Fox, une histoire d'amitié amoureuse entre deux femmes et un homme, ce sont des choses qui arrivent que, pour des raisons inexpliquées, le scénariste, en l'espèce Howard Core, éprouva le besoin de porter à l'écran en faisant de l'amitié entre les deux femmes, une amitié plus poussée, si vous voyez ce que je veux dire. En l'espèce, il n'était quand même pas très loin de l'esprit de D.H. Lawrence, puisque dans notamment Love, alias Femmes amoureuses en français, on trouve effectivement des cas de lesbianisme fort avérés. Les interprètes sont peu connus, Annie Wood, Sandy Dennis, par contre le nom de Kerr Douléa, je l'espère, dira quelque chose au cinéphile, puisqu'on le vit l'année suivante, sauf erreur de ma part, dans le plus grand film de science-fiction de tous les temps. En l'espèce, bien évidemment, 2001 Odyssée de l'espace. Une bénédiction, une malédiction pour Kerr Douléa, puisque vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'a plus guère entendu parler de lui ensuite. Allez, on écoute un petit extrait de cette bande originale signée l'allochiffrine, Le Renard The Fox, 1967 dans 24 heures.
Thank you.
un extrait de la bande originale du Renard, une musique de Lalo Schifrin pour un film de Marc Riedel tourné en 1967. Alors, je ne sais pas s'il est plus, je dirais, musicophile d'entre vous l'auront reconnu, mais si vous essayez de jouer plus vite que dans le film le thème à la flûte qu'on entend au début de ce morceau, et ben ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, une fameuse émission des années 70 qui s'appelait Dim Dam Dom, si je me souviens bien. Et donc, le générique était de fait signé Lalo Schifrin. Ces gens savent recycler les airs. J'avoue que je ne m'en souvenais plus, mais en écoutant le morceau, je me suis dit que ça me rappelait quelque chose, mais en plus rapide. Et c'était bien de cela qu'il s'agissait. On va rester dans cette veine un peu jazzy, vous l'aurez compris, Lalo Schifrin aura illustré la musique de film, surtout dans ce genre-là, même si nous aurons peut-être le temps d'entendre autre chose. Je vais y arriver. En écoutant un extrait, cette fois, de la bande originale d'un film beaucoup plus connu que The Renard. Un film qui mettait là encore en scène Steve McQueen. Un film où il y avait une poursuite de voitures dans les rues de San Francisco que personne apparemment n'a oublié, même si personnellement je n'aime guère les poursuites en voiture. Et ben oui, ça s'appelait Bullitt en 1967. Un film de Peter Yates, un réalisateur anglais que Steve McQueen, producteur superstar du film, était allé chercher après avoir vu l'un de ses précédents films. Ma foi, coup d'essai, coup de maître, puisque Bullitt, qui mettait en vedette aux côtés de Steve McQueen, Robert Vaughn aussi, vous voyez qui c'est, mais vous ne voyez pas qui c'est, Jacqueline Bisset, la délicieuse, et Robert Duvall, toujours sur les écrans, presque 50 ans après, eh bien, tous ces personnages-là étaient emmenés dans une histoire policière qui n'était peut-être pas d'une totale originalité, mais qui était filmée avec une grande nervosité, à laquelle Lalo Schifrin apportait une touche jazzy un peu stressée, dont je vous laisse maintenant profiter.
Thank you.
L'efficacité jazzy des années 70 pour un extrait de la bande originale de Bullitt, un film avec Steve McQueen dans le rôle principal d'une fameuse poursuite dans les rues de San Francisco, si cinématographique, mais peut-être pas le film le plus original de tous les temps, on pourra en dire autant, je l'avoue, mais nous sommes là avant tout pour la musique, plus que pour les films, même pour le film suivant, même si celui-là reprend un autre héros charismatique qui est encore avec nous, pour ce qui le concerne, en l'espèce Clint Eastwood, qui en 1971, eh bien, inaugura la saga de l'inspecteur Harry, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Henry Callahan, un policier aux méthodes, comme l'on dit, musclées, mais musclées façon bodybuilding, le gars. Personnellement, j'avoue qu'on avait déjà une sorte d'esquisse de l'inspecteur Harry en 1968, dans un film intitulé « Un shérif à New York », qui voulait déjà tout dire. Le titre était en lui-même programmatique. On y voyait déjà Clint Eastwood et on y voyait déjà Don Siegel à la direction. Et on y voyait donc un shérif à New York venant appliquer dans la grande ville, en l'espèce Big Apple, des méthodes, disons, du Far West. L'inspecteur Harry reprend à peu près le même schéma avec une idéologie quelque peu discutable, mais qui, a priori, rencontre un certain succès, puisqu'on le revit, cet inspecteur Harry, en 1973 dans Magnum Force. On le revit même en 1976 dans L'inspecteur ne renonce jamais, je ne sais plus comment ça s'appelait en anglais, et on le vit dans Sudden Impact en 1984, le retour de l'inspecteur Harry. Après, il y a eu le fils de la mort de l'inspecteur Harry, non pas vraiment, mais en même temps, il y a eu d'autres rôles de Clint Eastwood qui ressemblent fort à ceux de l'inspecteur Harry et qui laissent quand même perplexe sur le parcours politique du monsieur. Quelque respect qu'on puisse avoir pour son grand âge. Allez, on s'écoute un extrait de la bande originale de l'inspecteur Harry, 1971. C'était Don Siegel derrière la caméra et c'était Lalo Schifrin, bien sûr, à la baguette dans 24 notes secondes. Le style inimitable de Lalo Schifrin, un extrait de la bande originale de Dirty Harry. Tout simplement, en anglais, je l'avais oublié de vous le dire, celle-là. L'inspecteur Harry en français, Lalo Schifrin auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes. Je passe rapidement pour écouter encore deux extraits au film suivant. Ça s'appelle L'aigle s'est envolé, un film de John Sturges tourné en 1976. Un curieux essai de politique fiction où l'on voit un commando allemand en 1943 se faire parachuter en secret en Angleterre pour assassiner rien moins que Winston Churchill. Ils y parviennent, mais Damnon, ce n'est qu'un sosie. Le vrai Winston Churchill est à Téhéran, en train de dépecer l'Europe, peut-être vous en souviendrez-vous. Quelques particularités, une distribution prestigieuse, Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall, la délicieuse et trop rare Jenny Agutter, Donald Pleasance et quelques autres, dont Larry Hagman, alias J.R. dans Dallas. Peu connu à l'époque. Et autre particularité, en français, ça s'appelle « L'aigle s'est envolé » et en anglais, ça s'appelle « The Eagle has landed ». Exactement l'inverse. On ne sait pas où ils vont chercher tout ça. Allez, on s'écoute un petit extrait de la bande originale, Lalo Schifrin, dans 24 notes secondes. Non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vous avais dit que Lalo Schifrin pouvait s'illustrer dans tous les genres. Un extrait bien martial de la bande originale de L'Aigle s'est envolé. 76, John Sturges. On va se quitter rapidement en écoutant une nouvelle fois un générique d'une série télévisée. Manix, 1967-1975, 194 épisodes, Bruce Jenner, alias Mission Impossible, Richard Lewinson et William Link, alias Columbo, comme producteur, Mike Connors dans le rôle de Joey Manix et la délicieuse Gayle Fisher, une des premières actrices afro-américaines dans le rôle de sa secrétaire. Allez, on s'écoute ça, mais je vous dis tout de suite au revoir, à bientôt, see you, bye bye.